pleine Inquisition, entre 1263 et 1277, Humbert de Romans, qui est un dominicain, va sortir un recueil qui va être très populaire parmi les inquisiteurs, puisque nous sommes en pleine période d'Inquisition, qui a commencé, comme vous le savez, en 1184, et qui a combattu, que ce soit les Albigeois ou Cathares, plus tard aussi les Vaudois. Et Humbert de Romans va sortir un recueil qui a pour thème le don de la crainte. Alors quel est le but de ce recueil? Ni plus ni moins d'inciter les fidèles à se repentir et d'éprouver une crainte de Dieu. Et pour cela, dans ce recueil de 300 récits, il va y avoir des récits vraiment extravagants concernant l'enfer de feu. Vous imaginez un peu ce qu'on imagine donc à cette époque, le purgatoire, le jugement dernier, enfin vraiment de quoi faire peur, pour qu'ainsi eh bien, les fidèles ne soient pas des hérétiques. D'un autre côté, bien avant cela, lorsque nous ouvrons la Bible, on parle aussi de la crainte de Dieu. Et cette fois-ci, c'est un roi qui, dans le livre de l'Ecclésiaste, encourage ses lecteurs à avoir cette crainte de Dieu. Alors, ouvrons Ecclésiaste au chapitre 12. C'est le roi Salomon qui conclut son livre au verset 13 et au verset 14. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 et 14. La conclusion de la chose, tout ayant été entendu, craint le vrai Dieu et garde ses commandements, car c'est là toute l'obligation de l'homme. Car le vrai Dieu lui-même fera venir sur toutes sortes d'œuvres, venir toutes sortes d'œuvres en jugement concernant toutes choses cachées, pour savoir si elle est bonne ou mauvaise. Pour avoir le sentiment qu'entre ce qu'a fait ce dominicain et la conclusion à laquelle est arrivé le roi Salomon, il y a, on peut dire, convergence de points de vue. Or, tel n'est pas le cas. Dans ce recueil fait par ce dominicain, cet inquisiteur, le but était d'inspirer de l'effroi, une vision vraiment horrible de Dieu. Et d'un autre côté, le roi Salomon invite ses auditeurs, et nous-mêmes cet après-midi, à craindre Dieu. Non pas d'une façon morbide, mais d'une bonne manière. Ce qui montre déjà, à travers cette introduction, que le mot « crainte » a plusieurs acceptions. Tout dépend le contexte, c'est évident. Par exemple, vous êtes venu à la salle, vous avez pris votre véhicule, vous l'avez pris en toute sécurité, mais vous avez quand même une certaine appréhension, une certaine crainte d'avoir un accident. Et oui, c'est pourquoi vous êtes prudent. Il faut mettre sa ceinture, il faut respecter les limitations, les panneaux, etc. Donc il y a quand même une certaine crainte de sa vie. Et puis aussi, on ne souhaite pas faire perdre la vie des autres. Hein. Vous voyez, le mot crainte, eh bien, il faut le replacer dans un contexte. Et il faut le reconnaître, pour la majorité des humains, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, il y a toujours une connotation négative. Et si on se replonge dans cette période de l'Inquisition, c'était vraiment une image très négative que les personnes pouvaient avoir de Dieu. Et la religion utilisait cela. Et parfois même avec des enfants, on dit, tu vas voir, parfois on disait, le petit Jésus va te punir, vous vous rappelez peut-être, hein, vous voyez, donc on donnait vraiment une idée négative du respect qu'on pourrait avoir pour Dieu ou pour Jésus selon le contexte. Alors, deux conditions peuvent sembler contradictoires pour avoir une crainte salutaire de Dieu. Bien, il faut premièrement, c'est le thème de ce sujet, bien sûr, le craindre, mais aussi l'aimer. Et on va voir à travers ce sujet, bien que c'est tout à fait possible, ces deux qualités se conjuguent. Il y a, il est vrai, une crainte de Dieu qui existe. C'est une crainte, on pourrait dire, bien de sa toute-puissance, parce que Dieu est tout-puissant. Et parfois, quand, je ne sais pas, vous avez déjà entendu un coup de tonnerre soudain, ou parfois une mer déchaînée, ça inspire une certaine crainte, un certain effroi. On voit des éclairs, on s'aperçoit, il est vrai que le Créateur, eh bien, peut, s'il le désirait, utiliser ses éléments, étant le Tout-Puissant, on se sent tout petit. Mais il faut reconnaître qu'en termes généraux, dans les Écritures, la crainte de Dieu est toujours liée bien au désir de faire ce qui est agréable à ses yeux et de rejeter ce qui lui déplaît. Et nous allons le voir à travers ce thème. Alors, qu'est-ce que la crainte et comment la cultiver ? Bien, lorsqu'on constate dans l'Ecclésiaste cette conclusion, vous notez, le roi Salomon dit « Crains le vrai Dieu et » Vous notez la suite ?« Garde ses commandements. » Pour vraiment avoir la crainte salutaire de Dieu, de Jéhovah, il faut le connaître. À la différence de la crainte, on va dire, négative, ou pour revenir à l'introduction, cette crainte que ce dominicain a voulu développer parmi ses ouailles, eh bien, moins les gens connaissaient sur Dieu, mieux c'était pour pouvoir ainsi les manipuler. Pour connaître. Mais si on apprend à connaître Dieu, nous allons avoir une crainte tout à fait salutaire de faire ce qui est agréable à ses yeux. Donc, en fait, celui qui a la bonne crainte utilise la connaissance pour servir son créateur, et cela le pousse à agir sagement et aussi à prendre des décisions qui sont en accord avec les principes que donne la Bible. La crainte et l'amour de Dieu donc se conjuguent. Du reste, lorsque l'on aime quelqu'un, ne craint-on pas de le peiner ? Peut-être les enfants qui êtes présents cet après-midi, est-ce que vous avez le désir de plaire à papa et à maman? Oui, les enfants? Samuel? Oui? Lucas? Oui? On veut plaire à papa et à maman. Est-ce qu'on veut faire de la peine à papa et à maman? Ben non, c'est sûr. Pourquoi? Ben parce qu'on aime papa et maman, on ne veut pas lui faire de la peine. Donc, notez, la crainte et l'amour sont liés, et c'est important vis-à-vis de notre Créateur. Parce qu'en fait, bien, il va falloir, à travers cette connaissance de Dieu, bien, nous efforcer de toujours lui plaire. Alors, cette connaissance ou cette crainte salutaire est-elle spontanée ? Est-ce que nous sommes nés avec la crainte salutaire de Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu ? Bien non, puisque nous n'avons pas, on peut dire de manière innée, la connaissance de Dieu, et nous sommes tous nés dans le péché. Même si nous étions nés parfaits, il faut développer, en fait, des relations avec son Créateur. Pour cela, il faut apprendre à le connaître. Proverbe chapitre 2 le confirme. Il y a cette notion d'effort. Proverbe chapitre 2 aborde cet aspect du fait de cultiver ce désir de plaire à son Créateur. Alors, Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu conserves avec soin auprès de toi mes commandements, pour prêter à la sagesse une oreille attentive, afin d'incliner ton cœur vers le discernement, si, en outre, tu appelles l'intelligence, et si vers le discernement tu fais retentir ta voix, si tu continues à chercher cela comme l'argent, et si tu le recherches sans relâche comme des trésors cachés, alors, tu comprendras la crainte de Jéhovah et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Vous avez noté, si tu, cela revient plusieurs fois. Est-ce que nous sommes obligés de craindre Dieu ? Est-ce que nous sommes obligés d'apprendre à le connaître ? Non. Dieu n'émet pas de menaces. Il souhaite que cela soit spontané. Mais c'est pourquoi il a inspiré sa parole, pour que tous les humains, sur toute la terre, aient la possibilité, s'ils le désirent, eh bien, d'apprendre à le craindre. Pour cela, vous le notez, il y a des verbes d'action dans ce passage. Reçois mes paroles. Conserve avec soin. Prêtez attention. Notez ces verbes d'action, il y a une idée d'intensité croissante aussi dans cette invitation faite ici à travers ce livre des Proverbes. Et la conclusion, on le dit bien au verset 5, « Alors, si tu as cette connaissance, si tu acquiers cette sagesse, ce discernement, alors là, tu sauras ce qu'est la crainte de Dieu. » Donc on est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut vivre ces gens qui ont vécu à l'époque de l'Inquisition, au moins ils en savaient, mieux c'était. Au contraire, Dieu dit, plus vous en savez sur moi, mieux c'est. Et ainsi, vous serez ce qui est agréable à mes yeux ou ce que je réprouve. On le voit au niveau humain, toute proportion gardée bien évidemment. On parlait tout à l'heure des enfants, peut-être au sein d'un couple, nous savons aussi ce qui déplaît à notre conjoint, n'est-ce pas? Si elle n'aime pas, les glaïeuls, vous n'allez pas lui offrir des glaïeuls. Hein? Parce que, ou les bonbons, peut-être c'est meilleur, mais je sais pas. Mais en attendant, on sait ce qui plaît à notre conjoint. Et si on veut lui faire plaisir, on sait. Même si peut-être on n'a pas vraiment abordé la question, on est assez peut-être malin pour dire, tiens, là, on discute, et dans la discussion, on noie un petit peu tout ça. Dit, ah! Alors si on revient, et c'est beaucoup plus important vis-à-vis de notre Créateur, même si ce n'est pas marqué noir sur blanc dans la Bible, on se dit en fait, je suis certain que ça va plaire à Jéhovah, ou peut-être ce comportement ne va pas lui déplaire, parce que nous avons, ce comportement va lui déplaire, parce qu'on a déjà une connaissance suffisante de sa sainte personne, et il nous invite à plonger nos regards dans les Écritures. C'est une incitation, il est très heureux de voir que des humains imparfaits, eh bien, s'efforcent d'acquérir cette crainte de sa personne. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de sa bonté et de sa bienveillance. Parce que Dieu n'est pas un créateur éloigné, comme si il était, hein, comme bien des présidents aujourd'hui, vous avez des gardes du corps avant d'y arriver, peut-être on n'y arrivera même jamais à rentrer en contact avec tel ou tel président. Jéhovah, en fait, est très proche des humains, déjà de par sa création. Nous sommes poussés, on le disait tout à l'heure, à le révérer. Ça fait partie de la crainte. Parfois avoir un certain effroi aussi, parce qu'on se dit, vraiment Jéhovah, il est tout puissant. Quand on voit certaines manifestations naturelles, on se dit vraiment, c'est impressionnant. On voit un volcan, c'est impressionnant. Donc tout cela, eh bien, se conjugue et nous permet de l'aimer et d'avoir cette crainte. Dans le livre des psaumes, au chapitre 25, ou disons plutôt le psaume 25, verset 14, il y a une expression qui sous-entend que celui qui a bien compris ces choses, eh bien, va rentrer dans des relations tout à fait particulières. Alors, cherchons ce psaume, dit le psaume 25. C'est David qui s'exprime au verset 14. Il dit, l'intimité avec Jéhovah appartient à qui ? Appartient à ceux qui le craignent. Vraiment, en lisant ce chant, ce psaume, on se dit, mais on peut rentrer dans une intimité avec Jéhovah. Pour ça, il faut le craindre, donc cela sous-entend bien qu'on a la connaissance, la sagesse, l'intelligence de ses voies, mais vous notez que ça ne reste pas au niveau intellectuel, c'est pas simplement dans notre esprit, puisque si on rentre dans une intimité, bien, quand on est intime avec quelqu'un, est-ce qu'il n'y a simplement qu'une relation intellectuelle ? Pas du tout. Il y a une relation affective. On parlait tout à l'heure d'un conjoint, ça peut être avec un ami. David avait des amis. Dans les Écritures, on a beaucoup d'exemples. Nous-mêmes, nous avons des amis. Il y a une intimité, il y a des choses que nous allons partager avec cet intime. Et avec Jéhovah, nous pouvons tout partager. Si nous sommes dans cette intimité, c'est à nous individuellement, eh bien, de développer cette fibre. Dans un couple, chaque couple a une intimité, et on sait que chaque couple a une intimité, mais en fait, personne ne rentrera dans cette intimité. C'est personnel. Bien, vis-à-vis de Jéhovah, chacun doit avoir une telle relation d'intimité avec son Créateur. C'est à nous de la tisser, de la nouer, et en fait, il y a en quelque sorte, pour analyser ce mot intimité comme une discussion, on peut dire, à cœur ouvert. Il n'y a pas de distance, il y a même un échange de confidence lorsqu'on prie notre Créateur, peut-être dans notre chambre particulière, pour reprendre l'expression du Christ. Eh bien là, on est vraiment dans l'intimité. Et cette crainte salutaire qu'on a de lui, eh bien sans nul doute, ne peut que se renforcer au fil du temps. Plus nous étudions, plus nous analysons les Écritures, le comportement de Jéhovah dans plusieurs situations, nous sommes fiers de porter son nom et d'avoir cette intimité. Tout cela évidemment, n'est pas à sens unique, parce que de l'autre côté, Jéhovah, nous ayant permis une telle relation, bien, nous fait confiance. Il y a une confiance mutuelle. Lorsqu'on a un ami, est-ce que nous avons confiance en lui? Bien évidemment. Oh, bien sûr, on sait qu'il est imparfait. Il a des limites, mais nous aussi. Mais vis-à-vis de Jéhovah, lui ne peut pas nous décevoir. Il est notre créateur. Et nous ne souhaitons absolument non pas le décevoir. Nous sommes bien conscients de notre imperfection. C'est pourquoi nous voulons chérir de telles relations. Cette crainte s'acquiert par l'amour des choses spirituelles. Prenons un exemple, celui de Josué. Rappelez-vous, au début de ce livre écrit par Moïse, Josué, chapitre 1er, vous savez que Josué a été le bras droit de Moïse. Pendant bien des années, il a été formé par Moïse, et Moïse ne rentrera pas en terre promise. Et on peut dire tout naturellement, eh bien, il choisit Josué pour emmener le peuple donc dans la terre promise. Alors, il lui donne bien des conseils, et très souvent dans ce premier chapitre, il l'encourage à être vigoureux, à être plein de courage et fort. Comment être fort et plein de vigueur, pour reprendre l'expression du verset 7, eh bien, il lui dit au verset 8, « Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. » Oui, si tu veux être courageux et très fort, mais il va falloir puiser à la source, c'est-à-dire dans les Écritures. Il faudra que tu y lises à voix basse, jour et nuit, afin d'avoir soin de faire selon tout ce qui est écrit. Car alors, donc la conséquence, alors tu feras réussir ta voie et alors tu agiras sagement. Et nous le savons, Josué a suivi ces principes qui venaient de Jéhovah, et il a emmené le peuple en terre promise. Ensuite, il est mort. C'est un homme qui a accompli un service pour Dieu, un service de qualité. Mais le conseil de Moïse est toujours valable aujourd'hui. Si nous voulons ressembler à Josué, être dans cette intimité, bien, il faut lire les Écritures, il faut les approfondir pour que cela puisse, on peut dire, vraiment nous enraciner dans la vérité et produire en nous le désir, eh bien, d'avoir cette crainte salutaire de Jéhovah Dieu. Et nous pouvons dire, et nous le rappelons très souvent dans nos réunions, bien que l'étude, la méditation, la participation, l'assistance aux réunions, bien tout cela sont une protection dans ce monde qui est de plus en plus froid. Nous sommes heureux de toutes ces dispositions, n'est-ce pas? Comme là, bien souvent, on se dit, tiens, ce matin il pleuvait par exemple, bien, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? On s'abrite ou on cherche un parapluie? Bien, on peut dire, c'est pareil, dans ce monde, on cherche un abri, un moyen de nous protéger de ce monde, eh bien Jéhovah nous donne cette protection spirituelle à travers les Écritures et son organisation. Quels sont les bienfaits donc de cette crainte? Eh bien, nous l'avons constaté, déjà nous sommes premièrement spirituellement vivants. Parce qu'en fait, fondée sur la foi, la crainte est liée donc à l'amour, à la connaissance. Si nous ouvrons cette fois-ci 1 Jean chapitre 4 verset 18, pour rester vigoureux et fort, la prière nous permettra de rester vivants. Et ici il y a un verset intéressant, parce que premier abord cela paraît contradictoire avec notre thème. 1 Jean 4 18, pourquoi? Parce que Jean dit: il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait jette dehors la crainte, parce que la crainte est un frein ou une entrave. En fait, celui qui vit dans la crainte n'a pas été rendu parfait dans l'amour. On se dit, alors là, tout ce qu'on vient de dire, ça s'écroule. Parce que si en fait Jean dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, et on vient de dire que pour avoir la crainte salutaire de Dieu, il faut justement l'amour, la connaissance. Ça paraît contradictoire. Mais en fait, il faut toujours prendre le contexte. Et à quoi l'apôtre Jean ici pensait-il lorsqu'il parlait de la crainte? Il parlait d'une crainte qui n'était pas la crainte révérentielle, la crainte salutaire, mais la crainte ici liée au fait de ne pas avoir une bonne conscience devant Jéhovah. Celui qui pèche devant Dieu, en fait, ne peut pas avoir une bonne conscience devant son Créateur. Et bien souvent, Et en fait, il ne s'approche pas de Dieu, il ne le prie pas. Donc cette crainte n'est pas la crainte salutaire. C'est pourquoi Jean, il dit, eh bien, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Si vraiment on aime Dieu, et que l'on pêche, ça peut arriver, on purifiera sa conscience en demandant le pardon de nos péchés. Et nous n'aurons pas crainte que Dieu nous rejette. Tout comme un enfant, puisqu'en en fait, cette image est suffisamment forte, lorsqu'un enfant, il fait mal. Vous pensez que les parents ne le savent pas, hein, les enfants, que vous avez fait des bêtises ? Quand vous revenez un peu dans peut-être la chambre ou la cuisine ou que sais-je, et votre père a dit ça va ? Oui, oui, ça va. T'as pas fait de bêtises ? Non. T'es sûr ? Oui. Non mais regarde-moi bien. Bah déjà on sait qu'il avait une bêtise, hein. C'est pas vrai ? Oh il a rien dit, mais on s'en doute bien. Hein. Il m'a dit, bon, allez, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai cassé... c'est pas grave, c'est bien. Il vaut mieux le dire. Mais souvent, l'enfant a un peu peur. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, bon. Bah, si c'est le pot de fleurs que j'aimais pas, c'est pas grave. Celui-là, ça fait longtemps que j'essayais, mais... C'est bien, mon fils, continue. Mais en fait, l'enfant avoue et... Bon, un père compatissant dira, bah, c'est quand même pas très grave, n'est-ce pas ? Comme on ne sait pas à casser les vases, hein, les enfants, parce que là, après... Mais en fait, si vis-à-vis de Jéhovah, on revient, c'est important, si on fait une bêtise, pour rester dans cette idée, bah, il vaut mieux le dire à Jéhovah, pensez pas ? Parce que si on ne le dit pas, bien là, on s'enfonce. Et après, on devient... Après, on a peur, et là, dans l'aspect vraiment morbide... qui fait qu'on ne le prie pas, et comme on ne le prie pas, il ne peut pas nous donner son pardon, puisqu'on ne peut pas le prier. Donc c'est à cette crainte ici que l'apôtre Jean pense. Au contraire, une bonne conscience nous donne la liberté de nous approcher de Dieu sans que la crainte nous paralyse ou nous retienne. Et par amour, nous nous sentirons tout à fait libres de le prier, de rechercher son pardon. C'est pourquoi, dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, il dit, voici l'assurance que nous avons à son égard, c'est que quoi que ce soit que nous demandions, selon sa volonté, il nous entend. Donc c'est rassurant. Et on peut demander son pardon, et nous le demandons chaque jour, et nous sommes tout à fait confiants, sûrs, que, étant un Père aimant, il nous exaucera. Donc au lieu de nous enfoncer, gardons cette franchise vis-à-vis de Dieu, il nous connaît mieux que nous. Et c'est tout à fait encourageant. C'est pourquoi nous voulons, et nous l'avons bien compris, garder les commandements de Dieu. Si certaines personnes, parfois, n'ont pas la crainte de Dieu, c'est que tout simplement, ils n'ont pas envie de suivre ces commandements, ou ils n'ont plus envie de les suivre. Tenez, parfois, dans le ministère, des gens nous disent, mais chez vous, les Jéhovah, vous n'avez pas le droit de faire ça, alors vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de vivre comme ça, vous n'avez pas le droit de boire ça, vous n'avez pas le droit de... Enfin, souvent, même, ils nous sortent des choses... c'est bien, vous me suivez. On dit, mais non, mais attendez. Non, mais je veux pas savoir. Parce que pour eux, suivre Dieu, ce n'est qu'une contrainte. C'est pourquoi parfois, se marier, mais à quoi ça sert ? Vivre avec quelqu'un, bon, 25, 30, 40 ans la même. Oh là là, non, je préfère pas me marier. Ils ne veulent pas de contraintes. Alors on le retrouve dans bien d'autres aspects de la vie, n'est-ce pas ? Alors vis-à-vis de son Créateur, non. Donc forcément, suivre Dieu, c'est contraignant. Surtout chez les témoins de Jéhovah. Oh là là, on ne va jamais là-dedans. Oh là 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 là. Ça, c'est la réflexion de quelqu'un qui n'a pas appris à connaître Dieu. Alors, nous, ça nous fait un peu sourire, parce qu'on dit, bon... Mais si on regarde les Écritures, pensez-vous que Dieu, pour qu'il puisse nous attirer à lui, que nous ayons à cœur de le servir, va nous donner une suite d'interdictions comme une chape de plomb ? Alors, ça serait vraiment pas très heureux. On n'aurait pas envie d'avoir une telle intimité avec son Créateur. Si on revient à l'introduction de ce Humbert de Romans, ce dominicain, parce que les dominicains étaient spécialistes de l'Inquisition avec les franciscains, sous la houlette bien sûr du pape Grégoire entre parenthèses, mais en fait quand on lit son livre, bon j'ai vu simplement que les entêtes de chapitre, ça vous donne pas envie de servir Dieu, hein. Mais c'est sûr que vous tremblez, parce que vous dites, oh là 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 là. Non, Si on regarde 1 Jean chapitre 5, vous l'avez peut-être toujours sous les yeux, notez ce que dit le verset 3. 1 Jean 5, 3. Car voici ce que signifie l'amour de Dieu, que nous observions ses commandements, et pourtant ses commandements ne sont pas pesants, lourds, encombrants. Au contraire, c'est une sécurité. Tout comme un code de loi, un code de la route, et c'est là pour nous protéger. Pensez que s'ils ont mis une rambarde sécurité dans le virage, c'est pour vous embêter. On dit, regarde-moi ça, ils ont mis une rambarde de sécurité, tu te rends compte que je vais esquinter ma voiture? Ben, t'as qu'à pas rentrer dedans. Ben oui, mais si je rentre dedans, ben, évite, ralentis, c'est pour ça que c'est marqué 30. Si vous arrivez à 60 ou à 70, et vous tapez dans la rambarde, vous allez attaquer la DDE en disant, ben, voyez, c'est scandaleux, regardez ma voiture maintenant. Il dit, attendez monsieur, on a mis ça, c'est pour vous protéger, parce que vous avez remarqué, derrière, il y a un ravin. Oui, mais moi, le ravin, c'est ma voiture. Bon, pas à discuter hein, avec des gens comme ça. Mais si on observe les commandements de Dieu qui sont comme une rambarde, une protection, c'est pour notre sécurité, au jour le jour, et une sécurité aussi éternelle. Ça, c'est intéressant. Et celui qui a écrit cela, l'apôtre Jean, servait Jéhovah déjà depuis plus de 60 ans. Pas si certains dans la salle servent Jéhovah depuis plus de 60 ans, mais même si c'est moins de 60 ans, on n'a pas besoin peut-être d'aller jusque-là. On pense que Jéhovah serait intervenu avant, mais enfin, en attendant, il avait une intimité avec son Créateur. Pensez pas. Et nous pouvons imiter l'apôtre Jean tout simplement en gardant ses commandements et en constatant que ce n'est pas, eh bien, une, on peut dire, un joug pesant, quelque chose qui va ralentir notre vie, mais au contraire, bien souvent l'alléger, parce qu'on constate entre ceux qui suivent les commandements de Dieu et ceux qui ne les suivent pas, eh bien qu'entre nous on est mieux placé hein, au sein de la congrégation de Dieu, hein, ne pensez pas, c'est évident. Et entre autres, eh bien nous nous sentons protégés parce que Jéhovah, eh bien nous aime. C'est un peu comme un enfant, j'aime bien toujours prendre cela, quand un enfant, vous savez, il n'est pas content, il dit à son petit copain, tu sais, papa il va venir, hein. À 4 heures, papa, il va venir. Et tu vas voir, hein, parce que mon papa, eh ben, il est fort. Hein. Vous avez déjà dit ça, peut-être, les enfants, non? Ça arrive, hein? Quelqu'un qui vous embête, hein? Ah ouais, ton papa, il est quoi? Eh, mon papa, il est fort. Hein. Donc, on a une idée, c'est qu'il va nous défendre. Ah ouais, c'est normal. Vers qui allons-nous nous tourner si papa, il nous défend pas? Hein? Alors, vous imaginez que Jéhovah, ben, il est fort, hein? C'est pas vrai, les enfants? Est-ce qu'il est Jéhovah, il est très fort. Très, très fort. Hein. Donc, est-ce qu'on a peur des autres? Ben non, hein. Jéhovah, il est là. Hein. Vraiment, il nous protège. Et pour ça, il faut écouter ce que dit papa-maman, parce que papa-maman, elle regarde ce qui est dit dans la Bible. On compte sur vous, les enfants, n'est-ce pas? C'est bien. Et entre autres, eh bien, Jéhovah souhaite, dans ce monde qui est complètement déstabilisé, que nous ayons des repères constants. On en parlait cette semaine, on parlait jeudi de la maturité, c'est difficile à acquérir parce qu'il y a tellement de choses qui changent. Alors si on n'a pas une référence fixe, il faut reconnaître qu'on peut être comme ça au gré des vents. Alors si on prend les Écritures dans Proverbes, chapitre 6 par exemple, il y a des choses qui plaisent à Dieu, puis il y a des choses qui lui déplaisent. Donc on sait à quoi s'en tenir. Proverbes 6. À partir du verset 16, il y a 6 choses que Jéhovah est vraiment. Oui, 7 sont des choses détestables pour son âme. Des yeux hautains, une langue mensongère, et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui trame des projets malfaisants, des pieds qui ont hâte de courir vers le mal, un faux témoin qui exalte des mensonges. Et le dernier point, le 7e, quiconque déchaîne des disputes entre frères. Bien, vous notez ici, sous 3 aspects, que ce soit en pensée, en parole ou en action, nous savons ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Vous le notez, on parle en pensée des yeux hautains ou d'un cœur qui trame des projets malfaisants. On parle aussi de la parole ici, une langue mensongère. On parle d'un faux témoin aussi au verset 19. Ou en action, des mains qui versent le sang innocent, des pieds qui ont hâte de courir vers le mal. Alors tout cela, bien sûr, nous permet dans bien des situations bien de l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans la moralité, l'éducation de nos enfants, le choix de nos distractions. Parce que, reconnaissons-le, la conscience manque souvent de stabilité. Pensez-vous que la conscience est un guide sûr ? Pas du tout, hein. La conscience n'est pas un guide sûr, hein. Parfois on dit, oui, mais moi j'ai ma conscience. Mais ce n'est pas forcément un guide sûr. Par contre, une conscience éduquée par la Bible, d'accord. Mais la conscience, il n'y a rien de plus versatile, hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions, comme on l'a dit, extérieures, et puis il y a des pressions intérieures. Notre cœur, parfois, a envie de faire des choses, alors qu'on sait que ce n'est pas bien. C'est pourquoi, si on revient à l'idée fondamentale de la crainte de Jéhovah, on va se poser la question dans nos actions, qu'est-ce qui lui est agréable ? Ou si j'ai envie de faire ça, est-ce que ça va lui plaire ? Est-ce qu'on va courir ? On parle des pieds qui vont vers le mal. Est-ce qu'on peut-être, on parle des yeux hautains ? Est-ce que l'on va peut-être refuser des conseils qui nous sont donnés ? Est-ce qu'on serait poussé peut-être à tramer des projets malfaisants, peut-être, c'est-à-dire des idées mauvaises ? Donc il faut nous analyser sans cesse pour pouvoir eh bien, plaire à notre Créateur. Dans le psaume 5, il y a aussi une pensée intéressante. Psaume 15, hein. Ça fait un peu écho au proverbe. Alors dans les proverbes, on parle de choses que Dieu réprouve. Puis là, on l'aborde aussi sous l'aspect, au verset 1er, de quelqu'un qui nous invite, et c'est Jéhovah qui nous invite. Et David dit au Jéhovah, qui sera l'hôte de ta tente ? Donc qui aura l'honneur d'être invité par toi ? Qui résidera dans ta montagne sainte ? Bien, c'est celui qui marche de façon intègre, qui pratique la justice, qui exprime la vérité dans son cœur. Il n'a pas calomnié avec sa langue. À son compagnon, il n'a fait aucun mal. Il n'a pas proféré d'outrage contre son intime. À ses yeux, l'homme méprisable est bel et bien rejeté, mais il honore ceux qui craignent Jéhovah. Il a juré pour ce qui est mauvais, pour lui, pourtant il ne change pas. Donc vous notez ici, eh bien Jéhovah souhaite nous inviter, puisqu'on est dans cette intimité comme sous sa tente. Donc on sait déjà que ceux qui sont sous cette tente protectrice de Dieu, nous-mêmes, nos compagnons, le peuple de Jéhovah, bien nous suivons tous ces mêmes principes. Donc on se sent en sécurité. Quand on réfléchit, bien on se dit c'est pas très compliqué, c'est pas pesant. Hein. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous avons à cœur de faire ce qui est agréable à Jéhovah. C'est pourquoi nous voulons que nos enfants aussi puissent eux-mêmes développer cette crainte salutaire de Dieu. On a parlé à l'assemblée de district de l'éducation de nos enfants, on a reçu un livre magnifique, hein, Écoute le grand enseignant. Donc, on s'aperçoit que Jéhovah s'intéresse constamment à nos jeunes, c'est évident, hein, parce que bien, les enfants sont un héritage de Jéhovah. Et vous rappelez qu'on a pris le Deutéronome chapitre 6, rappelez-vous ce passage bien connu concernant l'éducation des enfants. Deutéronome 6. Et l'orateur a rappelé toute l'importance, versets 4 à 7, de cette éducation. Écoute, ô Israël, Jéhovah notre Dieu est un seul Jéhovah. Il dit, tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force vitale. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront être sur ton cœur et il faudra que tu les inculques à ton fils, que tu en parles quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, etc. Vous notez avant toute chose, pour inculquer à nos enfants la crainte salutaire de Dieu, que faut-il faire ? Bien, nous l'avons vu, il faut déjà, au verset 6, qu'en tant que parents, ces paroles soient dans notre cœur. Comment voulez-vous inculquer à vos enfants ce que vous n'avez pas dans le cœur ? Si vous n'êtes pas convaincu vous-même, ça ne marchera pas. Donc c'est pourquoi ici, Moïse dit, bien, il faut déjà que tout ce que vous avez appris, vous l'ayez bien dans votre cœur, et cela va forcément vous inciter, bien, dans tous les aspects de votre vie, à l'inculquer à vos enfants. Et après, il parle d'une manière concrète, bien, quand on est à la maison, en dehors, sur la route, dans bien des situations, nous pouvons faire ressortir les qualités de Jéhovah, ce qu'il a fait pour nous. Pensez pas. Et c'est pourquoi à l'Assemblée, bien, on rappelait que ce n'est pas un quart d'heure par semaine ou un quart d'heure par jour. Hein. Vous vous rappelez que certains se disaient que bon, il y a un quart d'heure de qualité. Il vaut mieux un quart d'heure de qualité hein, qu'une heure. Non, c'est pas un bon raisonnement, c'est pas biblique, puisque là, c'est pas un quart d'heure par jour, encore moins par semaine. On peut dire chaque instant qui passe est le moyen pour les parents d'inculquer cette crainte salutaire de Jéhovah. Et on ne peut que féliciter les parents parce qu'il faut reconnaître eh bien, que c'est un travail, pas simplement sur un an ou deux, mais sur 15, 20 ans, et parfois au-delà. Donc c'est bien que vous puissiez poursuivre dans cette qualité, et on peut dire que l'organisation de Jéhovah eh bien, vous donne aussi ses moyens. En gardant les commandements de Dieu, nous nous sentons aussi en paix avec nos frères, avec nos compagnons. Nous constatons bien qu'au sein de la congrégation, cette crainte que nous avons tous bien de déplaire à notre Créateur nous incite à faire des efforts afin que tous nous vivions en étroite union. C'est évident que personne ne se ressemble, hein. Chacun, nous avons une personnalité différente. C'est un peu comme un bouquet de fleurs, mais en attendant, bien ces fleurs sont dans le même vase. Et il n'y en a pas une qui pense qu'elle est plus belle ou moins belle ou mal placée. Elle est peut-être, il aurait fallu tourner le vase un peu. Elles sont dans le vase, elles sont là, elles cohabitent. On peut dire que nous sommes dans la congrégation, nous sommes de belles fleurs. Eh bien, en fait, à nous de fleurir. Et Jéhovah, on peut dire, nous bénit, nous illumine, c'est pas par le soleil, hein, mais par son esprit, afin que nous puissions continuer à travailler dans cette unité. Et dans le psaume 133, bien, on comprend que cette unité est primordiale. Là aussi, c'est un passage que nous connaissons bien. Psaume 133. Toujours David au verset 1er. Bien, il dit, voyez, c'est-à-dire constatez, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Est-ce que nous le constatons ? Bien, ça dépend en fait de chacun de nous. Et c'est bien lorsque nous travaillons unis, main dans la main, comme on disait ce beau bouquet de fleurs, c'est toujours agréable de pouvoir nous retrouver et profiter de l'enseignement salutaire. C'est pourquoi nous voulons continuer de démontrer que nous craignons Jéhovah. C'est essentiel en ces derniers jours parce que nous le reconnaissons. Nous sommes dans un monde difficile, on en parle souvent, on parle avec nos jeunes hein, qui sont confrontés à l'école, à bien des incitations. Je parlais cette semaine avec des jeunes qui bon, souvent voient leurs petits copains fumer de la drogue, fumer de la marijuana, etc. Ils n'ont pas toujours après les idées très, très claires, ils me disaient, ou d'incitations, parfois l'immoralité, parce qu'il est courant aujourd'hui eh bien, qu'un garçon ait une copine et inversement. Bien, là aussi, on ne peut que féliciter nos adolescents. Tout à l'heure, on parlait des plus petits, mais ça pousse. Hein. Là aussi, bien, vous menez un dur combat. Mais en fait, si vous pouvez le gagner, c'est grâce à l'aide, bien sûr, de vos parents qui sont là, mais surtout à l'aide que Jéhovah vous apporte parce que vous avez ce désir eh bien, de le craindre. Et c'est pourquoi bien, on le retrouve dans l'Ecclésiaste. Salomon incite les jeunes. Durant ce temps de l'adolescence, de la jeunesse, eh bien, utiliser ses forces, cette vigueur, eh bien, pour le servir, avoir des objectifs, travailler à plein temps, que ce soit comme pionnier au Bethel ou dans bien d'autres aspects du ministère, c'est maintenant qu'il faut choisir. C'est pas quand vous allez peut-être rentrer dans la vie, avoir une famille, des enfants, qui sont des choses louables en elles-mêmes, mais en attendant, profitez peut-être de toute cette vigueur qui est en vous, eh bien, pour vous donner pleinement dans le service. Si on revient à l'Ecclésiaste chapitre 12, que nous avons lu en introduction, nous pouvons dire effectivement, au verset 13, en relisant ce passage, Ecclésiaste 12, 13, la conclusion de la chose tout ayant été entendue. C'est vrai que quand on fait le bilan, on résume tout ce que Salomon lui a pu observer dans sa vie. C'est un homme riche, il a vu tellement de choses, il a connu des hommes, des femmes haut placés, des reines, il a vu la vanité de l'homme, il a vu aussi la brièveté de la vie. Il arrive à cette conclusion, il le dit, mais crains le vrai Dieu, garde ses commandements, car c'est vraiment là toute l'obligation de l'homme. Bien, pour nous aussi, tout ira bien si nous formons notre cœur à avoir cette crainte salutaire de Jéhovah. Il est vrai qu'il y a une crainte ou un effroi qui est mêlé d'admiration lorsque l'on imagine la toute-puissance de Jéhovah. Mais nous ne tremblons pas de crainte devant notre Créateur. Et même si nous l'avons compris, bien, nous pouvons commettre des erreurs. La peur, cet effroi, eh bien, ne nous retiendra pas de lui exprimer notre désir, eh bien, de recevoir son pardon, son aide. Et nous l'avons vu, ses commandements au jour le jour ne nous écrasent pas. Nous n'avons pas le sentiment que servir Jéhovah, c'est comme si on était en esclavage. Pas du tout, au contraire. Nous constatons, à la différence de ce monde qui nous entoure, que plus nous suivons les commandements de Dieu, plus nous sommes libérés de bien des choses qui asservissent à l'heure actuelle l'humanité. C'est pourquoi bien nous continuons, en tant que témoins de Jéhovah, à témoigner. Et si peut-être dans cette salle, certaines personnes étudient en notre compagnie, ils ont été contactés tout comme nous, bien souvent, porte à porte ou dans d'autres peut-être facettes du ministère, mais les témoins de Jéhovah continuent de prêcher, continuent d'expliquer en fait que seul Jéhovah est en droit de nous gouverner, mais pour cela il faut apprendre à le connaître. Alors, si peut-être vous faites vos premiers pas dans l'étude, si vous venez peut-être pour la première fois dans cette salle du royaume, nous sommes heureux de vous y accueillir. Continuez dans ces efforts, parce que nous aussi, nous tous qui sommes présents, eh bien, nous sommes des êtres imparfaits, nous avons besoin de nous affiner, nous avons besoin de nous approcher de notre Créateur, et cette crainte, eh bien, nous protège de bien des difficultés. Continuons donc d'éprouver cette crainte salutaire, et bientôt nous pourrons éternellement louer Jéhovah. Dans cette crainte révérentielle, nous pourrons tous continuer avec nos jeunes, nos enfants, à progresser, à accueillir aussi d'autres humains qui apprendront à le connaître. Donc nous pouvons dire que craindre Jéhovah est une véritable protection.